autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, à l'esprit libre et ouvert pour une émission polyphonique aujourd'hui, à l'écoute des voix de la forêt, celles des pygmées Aka, menacées, méprisées, ces peuples autochtones des forêts du bassin du Congo, ont beaucoup à nous apprendre, à nous chanter, voire à nous enchanter. Autour de la question pourquoi et comment se former à l'université de la forêt avec les pygmées Aka, rencontre avec un formidable ethnologue congolais, Sorel Etta, devenu malgré son mètre 77 et son origine bantou, chercheur et passeur internationalement reconnu de la culture pygmée, de la complexité de ses musiques ou de ses rituels de chasse, jusqu'à sa pharmacopée. Comment, envers et contre tous les préjugés de ses compatriotes bantous, comme parfois des ethnologues occidentaux, Sorel Etta est-il devenu le plus formidable connaisseur et défenseur des pygmées Aka, avec qui il a même formé le groupe polyphonique Ndima, actuellement en tournée internationale? C'est ce que nous allons découvrir ensemble autour de son essai paru aux Presses universitaires de France, L'université de la forêt avec les pygmées Aka. Le généreux Sorel Etta n'est évidemment pas venu tout seul, il est accompagné d'une des plus talentueuses et respectées chanteuses du groupe Ndima, les Voix de la Forêt. Elle s'appelle Angélique Manongo et elle est en direct live en exclusivité et a cappella tout de suite sur RFI. Merci Angélique, je crois que vous comprenez quand je vous dis merci Angélique. Merci à vous, magnifique, puissant. Merci à vous Sorel Etta d'être venu avec Angélique. Vous allez lui traduire hein, en lingala, en pygmée. Comment on dit merci
Il n'y a pas un mot pour dire merci en pygmée, mais ils pensent que merci c'est même en leur langue. Nyamotakaba, merci. Hein
Magnifique, je rappelle qu'Angélique est toute seule là en studio face à notre micro et que toute seule elle réussit à nous embarquer comme ça. Merci à vous, hein, Sorel Etta, d'être venu donc pour en direct, hein, pour diffuser et défendre cette culture pygmée qui vous tient tant à cœur et qui est un peu devenue la vôtre aussi. On va y venir hein, autour de votre essai que vous venez de publier au PUF, aux Presses universitaires de France, dans une nouvelle collection Nouvelle Terre, avec une préface du philosophe Dominique Bourg, excusez du peu, L'université de la forêt avec les pygmées Aka. Alors on va revenir sur ce titre qui est un programme et même un manifeste. J'en profite d'ailleurs pour signaler que nous avons un exemplaire de votre essai à vous offrir, chers amis auditrices et auditeurs. Mais on va peut-être commencer par le commencement, Sorel Etta, autour de la question pourquoi se former à l'université de la forêt avec les pygmées Aka. C'est un peu cette formation-là que vous avez suivie. Vous êtes ethnologue, ethnomusicologue, autodidacte, on peut le dire. Vous avez cependant poursuivi et complété votre formation. Alors d'abord à l'université de la forêt avec les pygmées, puis par des stages au CNRS en France auprès des plus grands musicologues et ethnologues qui vous ont adoubé. Mais d'abord, alors, Sorel Etta, vous êtes bantou, vous vivez à Brazzaville, en République du Congo, où ces peuples sont méprisés, raillés, presque esclavagisés. Comment avez-vous changé de regard et d'approche sur les pygmées jusqu'à leur consacrer votre vie d'homme et de chercheur?
C'est par rapport à mon éducation, à l'éducation reçue dans ma famille, parce que je suis issu d'une famille chrétienne et j'ai fréquenté l'église un peu plus tôt. Et je faisais partie d'un groupe dans la communauté protestante qu'on appelle CBE. Et là-bas, l'éducation qu'on nous donnait, c'était... on parlait beaucoup d'amour du prochain. Et on sait que la Bible, c'est l'amour du prochain. Hein. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est cet amour-là. Parce que quand j'ai quitté la ville, Pointe-Noire, pour Infondo, en fait, je ne savais pas que j'allais rencontrer les pygmées.
Pour aller dans la forêt.
Je partais travailler dans un chantier de bois de mon oncle. Parce que j'ai une histoire, hein. C'était parti d'une histoire. En fait, je préfère préfère peut-être la raconter.
Bien sûr.
Pour permettre aux éditeurs de mieux comprendre. En fait, en 1994, j'ai passé mon baccalauréat littéraire au lycée Victor Ganguer à Pointe-Noire. Et cette année, on avait étudié Jean-Paul Sartre, son livre intitulé « L'existentialisme est un humanisme » par deux professeurs de mon lycée, M. Ombras Bayakissa et Weston Keloka, qui est décédé père son âme. Et pendant cette étude, j'ai été fasciné, séduit par la philosophie de Jean-Paul Sartre. On sait, lui dit qu'il est philosophe athée. C'est vrai que je suis chrétien, mais j'aime la pensée sartrienne. Voilà, l'existence précède l'essence. Et pendant le cours, il y avait tellement de citations qui m'ont emporté. Le chemin se fait en marchant, l'homme est liberté, et il y avait l'homme est l'avenir de l'homme. C'est vrai que ce n'est pas de Sartre. Donc moi, j'étais emporté par ces citations et je voulais vraiment sortir des sentiers battus, faire mon chemin à ma manière. Raison pour laquelle, après le bac, au lieu de partir à l'université de Brazzaville, comme tout le monde, à l'université Marien Gwabi, j'ai refusé. Je me suis dit, le rêve en ces temps, c'était peut-être venir ici en Europe, étudier dans un conservatoire, parce que j'étais homme de théâtre depuis des années quand j'étais à l'école.
Mais vous avez fait le chemin vers la forêt.
Voilà, maintenant, il fallait trouver de l'argent pour venir en Europe. C'est ce qui va me conduire dans la forêt. Parce que papa et maman n'étaient pas contents du fait que j'abandonne les études. J'étais jeune, j'avais 20 ans à peine.
Ils auraient préféré que vous alliez à l'université tout court et pas à l'université de la forêt.
On ne connaissait même pas encore l'université de la forêt en ces temps. Et il fallait aller discuter avec papa et maman et jusqu'à ce qu'ils ont respecté mon choix. Ils ont dit, bon, tu as notre bénédiction, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ils m'ont même payé le billet pour partir à Infondo, région de mon oncle, qui était fonctionnaire, douanier, mais avait un chantier de bois. Donc, arrivé dans cette localité, c'est là où j'avais rencontré les pygmées. Et là où il y avait été basé notre chantier, c'est un village qu'on appelle Kombola, habité en ces temps en majorité par les pygmées, et les Bantous étaient minoritaires. Donc je les ai rencontrés là, en grand nombre, j'ai découvert leur culture, j'ai été fasciné par leur culture, surtout lorsque j'ai découvert leur musique, parce que nous, on ne connaissait pas vraiment cette musique. Hein. Aujourd'hui, si elle est connue au Congo, c'est grâce à Ndima, grâce au travail que je fais.
Grâce à votre groupe, donc Ndima, qui est un groupe de pygmées Aka, parce que cette musique, elle est assez extraordinaire, vous allez d'abord la découvrir en forêt, avec les pygmées, sur l'État. Et ensuite, vous allez même venir à l'initiative de l'Institut français, de l'ambassade de France, vous allez venir au CNRS travailler avec un des plus grands musicologues au monde, qui est le professeur Simcha Arom, qui lui-même considère que cette musique est une des musiques polyphoniques les plus sophistiquées, j'ai envie de le citer. Il dit, il n'y a aucune musique savante polyphonique dans le monde qui a atteint le niveau de complexité et sans écriture en plus, de celle des polyphonies pygmées. C'est-à-dire que c'est une musique que vous allez découvrir, étudier, et étudier avec des musicologues et des ethnologues fascinés par ces polyphonies.
Avant, malgré que je pratiquais cette musique avec eux, je ne la comprenais pas. Et ça, c'était mon point faible. J'avais tellement peur. Et nous, on a commencé à effectuer les tournées en 2012. Et il y avait un système là, c'est-à-dire à la fin de chaque spectacle, il fallait échanger avec le public. Et moi, toute fois que je me retrouvais face au public, j'avais un peu peur qu'on me pose des questions sur la musique polyphonique pygmée, parce que je n'avais pas d'argument. Voilà. Et en 2012, quand j'ai perdu mon emploi au Dépêches de Brazzaville, à la galerie des Dépêches de Brazzaville où je travaillais, chez M. Pugas, la solution avec ma marraine à l'époque, je peux dire, l'épouse de l'ambassadeur de France, monsieur Jean-François Valette, on a trouvé une solution, puisque j'étais un peu proche de l'ambassade de France, on m'a trouvé une bourse, avec la bénédiction du professeur Simra, pour venir ici en France, pour un stage au CNRS, au Centre National des Recherches Scientifiques.
Pour comprendre, en fait, pour pouvoir expliquer cette musique. Alors, expliquez-nous un peu, avant qu'on entende un autre morceau, avant qu'on refasse chanter Angélique, expliquez-nous un peu les spécificités de cette de ces polyphonies pygmées Aka, serait
l'état. Bon, déjà, la différence entre leurs chants, les chants polyphoniques pygmées, avec ce que nous pratiquons, c'est eux, ils chantent en contrepoint. Le contrepoint, il est différent du chant homorythmique que nous faisons souvent dans les chorales, là où il y a soprano, alto, ténor, basse. Hein? Dans ce procédé polyphonique, c'est aussi une forme polyphonique. Les voix sont rythmiquement identiques. Ce qui n'est pas le cas du contrepoint pygmé, où les mélodies sont rythmiquement différentes. Vous voyez. Et deuxième élément, donc au-delà du contrepoint, il y a le yodel.
Quand le yodel.
Le yodel. Mais
le
mani yenge,
kadi yenge,
bosse
yenge.
Keta. Voilà, le yodel, c'est ça. Merci, et ils appellent ça en langue Aka, diyenge. Donc, ce sont ces deux éléments qui différencient leur musique à la nôtre. Maintenant, du point de vue, quand on parle de la complexité des chants pygmées, en fait, c'est une polyphonie à quatre voix. On a une voix qui monte, qu'on appelle Mongombi, et il y a une voix qui chante en dessous du Mongombi. Et on appelle ça Mosinjako. Mosinjako, Mo, par exemple, dans Mosinjako, il y a Mo, le préfixe Mo désigne le singulier Sinja. Sinjako, ça vient de Sinja qui signifie descendre ou en dessous. Donc, c'est la personne qui descend, qui chante en dessous du Mongombi.
En dessous du premier.
du premier, voilà. Maintenant, il y a Motangani. Motangani, il y a le préfixe mot et il y a le mot tanga. Tanga, ça veut dire lire chez nous. Bon, autrefois, il n'y avait pas encore l'écriture. Tanga, c'est compter. Tanga, c'est énumérer. Donc, Motangani, avec l'évolution de la langue, tanga, c'est maintenant lire chez eux parce que aujourd'hui, nous savons lire et écrire. Motangani, c'est la personne qui dit les paroles. Parce que quand on chante, on exécute un chant pygmé, tout le monde ne dit pas les paroles. Hein? Et après, il y a Moketengani. Moketengani, donc, il y a mot singulier, kete. Kete, ça vient de keta, keta, coupé. Donc, c'est le chanteur ou la chanteuse qui fait des variations. C'est un peu comme du point de vue rythmique, quand on joue les tambours, tambour solo, le tambour qui fait des variations. Donc, Moketengani, c'est eux-mêmes, ils adorent m'expliquer ça en termes disant c'est la personne qui veille à la bonne exécution de la chanson. Quand ils constatent qu'il y a une personne qui chante pas agréable, il vient pour améliorer.
Par-dessus. Écoutez, pour avoir un aperçu, on fera encore chanter Angélique a cappella, mais je propose d'écouter un extrait de l'album que vous avez produit ensemble, Sorel Etat. Vous êtes décidément un homme orchestre avec le groupe Dima. L'album s'intitule Les Voix de la Forêt. Et cette fois-ci, on écoute, tenez-vous bien une chanson, je vais évidemment dire le titre en français, c'est Les Pygmées et les Bantous.
Ok.
Et Angélique Manongo en direct avec nous. Dites-nous-en un peu plus sur ce chant des Pygmées Aka, extrait de votre album du groupe Dima et qui s'intitule Les Pygmées et les Bantous. Alors vous êtes Bantou et Angélique
est
Pygmée.
Oui, oui. Elle est Aka. Ok.
Elle est Aka.
Oui.
Ah,
ouais.
Absolument.
Oui. Bambengana Bilo. Bon, je préfère qu'elle intervienne. Nyamoto, Yebo, Tina Yebo, Kaya Bambengana Bilo, Yadie.
Bambengana bilo bambenga badi dinga bakate
do bilo moto badi dinga ke bakate
bame bilo badi dinga bakate
il dit que c'est parce que les bantous n'aiment pas les aka voilà.
Les bantous n'aiment pas les aka. Vous parlez la langue ensemble, vous parlez la langue aka.
Oui, on parle la langue aka, oui.
Et ils méprisent. Qu'est-ce qui se passe entre les bantous? Alors je rappelle que vous êtes bantous, voilà. Sur l'état et que
Nyamoto kabali solo mena badi dinga bilo badi dinga bakate naye kabali solo na bonyongo
bilo badi dinga bakate parce que bilo bakundwa bampinga bo bampinga bade na salité bampinga bade na masolo yene bilo badi pusane pembe na bampinga te.
Il dit ils méprisent les aka parce que pour eux ils se disent que c'est des gens qui puent, dégagent une mauvaise odeur, donc voilà, ils ne provoquent qu'un amour pour eux.
Comment faire justement et comment serait l'état vous-même qui êtes bantou? Avez-vous découvert alors la richesse non seulement de cette musique extraordinaire, de cette culture, mais pas seulement, il y a aussi une pharmacopée extraordinaire, il y a aussi une manière d'aborder la forêt, une connaissance des plantes extraordinaire. Comment est-ce que vous avez découvert cette richesse et comment est-ce que vous pouvez la faire partager finalement aujourd'hui?
Comment est-ce que je l'ai découvert? J'ai été mise en observation par les aka pendant 6 ans, parce que c'est pas aussitôt que je suis arrivé la première année, c'est-à-dire en 96, qui se sont ouverts à moi. Non. Les gens qui connaissaient, qui savaient que moi j'ai fréquenté les aka, ils me disaient, mais écoute Sorel, c'est des gens qui connaissent beaucoup de choses, qui connaissent des secrets de la forêt. Vas-y, pose-leur des questions sur les secrets de la forêt, ils vont t'enseigner. J'ai essayé, ils ont refusé de me les dire. Et en ce temps-là, la réponse était, nous ne connaissons rien, nous sommes encore des enfants, il faut te rapprocher des anciens pygmées qui sont encore très loin de la forêt. Et voilà. c'était comme ça. Les années d'après, c'était comme ça. Et la sixième année, lors d'une expédition au cœur de la forêt, j'ai reposé cette question. Et ceux qui étaient en ma compagnie, ils ont refusé. Ils m'ont donné la même réponse que les années précédentes. Et après, ils se sont concertés en Langaka. Ils se sont dit, il y a du Mutungusu. Ça veut dire que c'est notre homme. On ne peut plus les traiter tel qu'on le fait avec les bantous esclavagistes.
Au bout de six ans. Ah, oui. C'est ça, les bantous esclavagistes. Au bout de six ans, vous n'étiez plus un bantou esclavagiste.
Ils ont constaté, ils ont considéré que je n'étais plus un bantou. D'abord, je n'ai jamais été esclavagiste. Parce que il se refusait de me le dire parce qu'il me considérait, je suis bantou, donc c'est un peu comme ce que Sartre dit dans l'engagement, dans sa philosophie. L'acte commis par une personne engage toute une société. Donc les actes commis par des bantous engagent les autres. Parce que nous, en ville, d'abord, on ne les connaît même pas, on les connaît juste de nom, on dit Mumbenga, mais les avoir vus, c'était là-bas. Ouais, donc le mauvais comportement des bantous qui cohabitent avec eux coûte cher aux autres. Donc après, ils se sont dit qu'il y a du Mutungusu, donc c'est notre frère, on ne peut plus les traiter tel qu'on les fait avec les bantous méchants. Et après, donc... à partir de là, ils ont commencé maintenant à me définir les vertus des essences. C'est là où j'avais maintenant senti que j'ai quitté la première étape où j'étais mise en observation pour l'autre étape. Et la seconde étape, là, ça a pris aussi du temps parce que toi, pour connaître, c'est pas parce que tu vis dans la forêt que tu vas connaître automatiquement leur culture. Il faut participer. Il faut faire ce que nous appelons en ethnologie l'observation participante. Donc, ça veut dire, quand ils vont chasser, tu dois être là. Quand ils vont collecter du miel, tu dois être là. Quand ils dansent, tu es là. Quand il y a des activités liées au chamanisme, tu dois être là. Quand, la chasse la nuit, tu dois être là. Donc, j'ai été partout, partout. Et après, je ne me suis pas limité aux akas du village de Kombola. Je partais ailleurs pour essayer un peu de comparer mes données, hein, ce que j'avais appris d'eux avec ce que les autres ont appris.
Comment est-ce que vous définiriez votre approche sur l'état? Parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Pour une fois que j'ai en face de moi un ethnologue, un ethnomusicologue congolais et qui travaille sur les pygmées Aka, qui finalement pourrait se faire des ennemis partout, à la fois chez vous en République du Congo parce qu'on méprise les pygmées Aka, à la fois chez nous parce que les ethnologues, oh ben non, c'est plutôt des occidentaux. Mais non, comment est-ce que vous définiriez au fond votre rôle? Vous êtes devenu ami des Aka, vous êtes devenu producteur musical, vous êtes ethnomusicologue sans ou avec diplôme, je ne sais pas comment le dire, parce que les diplômes, vous les avez acquis à l'Université de la Forêt. Comment est-ce que vous définiriez votre rôle? C'est un empêcheur de penser en rond? C'est un diffuseur de cette culture méprisée, oubliée et qui nous intéresse tous aujourd'hui?
Diffuseur de cette culture et puis intermédiaire. Hein, parce que là, vraiment, je suis au milieu entre les deux. Il y a des moments, eux aussi, quand ils se comportent mal, je dis, quand ils font des mauvaises choses, c'est pas bien, je corrige. Parce que le faut pas toujours diaboliser le bantou, hein, ils sont pas toujours mauvais. Donc moi, je suis en même temps au milieu, je suis intermédiaire. Et voilà pourquoi même mon objectif à moi, c'est le dialogue. Je parle du dialogue. Hein? Voilà, c'est ça le travail que je fais. Je suis au milieu, et je peux dire intermédiaire. Je suis diffuseur de cette culture. Je suis défenseur de cette culture. Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine, pas seulement congolais, pas seulement africain, un patrimoine de l'humanité qui est, de nos jours, menacé de disparition.
Menacé de disparition, qui est méprisé, on l'a dit, dans votre pays, au Congo. On va revenir aussi, parce qu'on a la chance d'être avec Angélique et d'avoir donc une femme, Pygmée Aka, avec nous, sur le rôle et la voix des femmes, très importante, très intéressante, différente de celle dans la société bantoue. Mais juste avant, j'aimerais bien vous faire écouter, même répondre à une question d'une, si ce n'est la plus formidable, femme en ethnologue et anthropologue de tous les temps, c'est Françoise Héritier, disparue en 2017. Françoise Héritier qui avait à notre demande posé une question à un médecin anthropologue français, Alain Froment du CNRS, qui travaillait lui aussi avec et sur les pygmées Aka. Alors cette fois-ci, c'était au Cameroun. Une question soulevée par Françoise Héritier que j'ai envie de vous retourner, Sorel Etat. On écoute Françoise Héritier.
Comment pense-t-il, compte tenu des conditions locales qu'il connaît mieux que moi, comment pense-t-il qu'il soit possible non seulement de les protéger, puisqu'on parle toujours de protection, mais de leur redonner le goût et la fierté d'être pygmée Baka?
Comment leur redonner le goût et la fierté? C'est Françoise Héritier qui posait cette question. Et je vous la pose, Sorel Etat. Comment leur redonner finalement la fierté et le goût d'être des pygmées Aka? Et peut-être qu'on peut aussi la poser.
En commençant d'abord, je vais répondre par les respecter. Tout commence par le respect. Il faut commencer par les respecter. Il faut commencer par les accepter tels qu'ils sont. Or, ce n'est pas le cas. Nous, quand nous partons vers eux, c'est avec l'arrogance. Nous croyons que nous sommes supérieurs. Nous les méprisons. Pourquoi supérieurs? Parce que tout ça, c'est à cause de vos ancêtres. Quand ils sont venus nous coloniser, voilà, ils nous ont mis dans nos têtes que non, votre culture était la meilleure. Mm-hmm. Le fait de nous avoir enseigné ça, appris ça. Et qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous nous comportons en colon vis-à-vis des pygmées.
C'est ouais. que ce que vous dites, Sœur Aletta, c'est que finalement, on n'arrête pas de faire souffrir plus petits que soi, j'ai envie de dire, ou ceux qu'on considère comme plus petits que soi.
Oui, on continue.
À tous les sens du terme.
Oui, on continue à les faire souffrir. Vous savez, dans les villages où nous habitons, souvent on dit ceci. On leur demande, faut sortir de la forêt. Sortez de la forêt, Bobimana Zamba, Bovanda, Botongamanda, Bokomoloko Labato. Elle comprend ce que j'ai dit. Sortez de la forêt, venez construire des cases, vous allez vivre comme des hommes, comme des humains. Parce qu'on considère que le fait pour les pygmées de vivre dans la forêt, dans des huttes, ce ne sont pas des humains, on les compare aux animaux, vous voyez. Donc, ils pensent le bantou qui fait preuve d'ethnocentrisme, mais pense que la meilleure vie, c'est quand on quitte la forêt, on vient s'installer le long du village, on construit des cases à la bantou, pas des huttes traditionnelles. Parce qu'il y a un de mes musiciens qui est resté à l'hôtel qui me disait, il y a eu un moment dans notre village, il y avait un groupe, il y avait quelques Akas qui étaient venus, qui revenaient du village, ils ont construit des huttes traditionnelles, mais la manière dont on avait cassé leur hutte, on a dit, on n'a pas besoin de ça ici, vous voyez. C'est compliqué. Donc, il faut que nous apprenions à les, que nous les respectons, que nous apprenons à les accepter tels qu'ils sont. Ah, parce que c'est une culture qui fait partie de tant d'autres. Moi, je travaille beaucoup sur la diversité parce que la diversité est une richesse. À moins que vous me dites que vous voulez vivre dans un monde uniforme où les bantous esclavagistes veulent que tout le monde, voilà, que nous vivons dans un monde uniforme. Non, c'est regrettable. Moi, je pense aussi que c'est l'ignorance qui nous pousse à avoir des telles réactions.
C'est-à-dire que du coup, pour qu'on les respecte, le travail que vous avez fait dans cet ouvrage, je rappelle que nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, l'Université de la Forêt, c'est de dire... Je vous fais passer un petit peu de leur savoir, de ce qu'eux-mêmes ont accepté de me faire passer, pour qu'on comprenne. Et qu'est-ce qui est le plus fascinant là-dedans? Moi, je vous ai vu en concert, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai lu votre ouvrage, il y a des pistes sur la chasse, sur la pharmacopée, sur les esprits. Qu'est-ce qui, vous semble le plus précieux? C'est énorme. C'est quoi? C'est la navigation dans la forêt? C'est la connaissance de la forêt, Sœur Aletta?
Il y a tellement de choses. Ben oui. Mais maintenant, moi, comme je vais peut-être accéder dans le monde scientifique, ou bien les scientifiques vont lire mon ouvrage. Vous savez, quand vous écrivez, il faut apporter quelque chose de nouveau. Je ne peux pas c'est-à-dire écrire sur ce qui a été déjà écrit. Voilà, puisqu'il y a des gens qui me demandent, mais qu'est-ce que tu apportes de neuf dans le livre, de nouveau dans le livre? J'ai dit, j'apporte l'Université de la Forêt. C'est une université, parce que l'un de dans ma vision à moi est que nous puissent institutionnaliser ça un jour, hein, que ça devienne officiel. Et deux, c'est la discipline qu'on appelle la navigation forestière. Pourquoi? Parce que...
La navigation forestière.
Ou la navigation forestière. Pourquoi? Vous savez, Caroline, nous avons plusieurs types de navigation. On a la navigation fluviale qui est codifiée. On a la navigation maritime qui est codifiée parce que j'étais marin-pêcheur. On a la navigation aérienne qui est codifiée. Et terrestre, les voitures. Vous avez tous des voitures ici. Voilà, vous n'avez pas fait l'auto-école, vous n'allez pas conduire. Mais maintenant, dans la forêt, la navigation forestière, il y a un code. Et ce code, nous l'ignorons. Vous, en tant qu'occidental, si vous partez dans la forêt, on prend n'importe quel blanc ici, on l'emmène dans notre grande forêt là-bas, parce qu'eux, ils se moquent de vos forêts. Il y a des moments où nous partons là-bas. Vous aurez besoin de quoi pour naviguer dans cette forêt? Besoin de GPS. Et le GPS, c'est quoi? C'est un appareil de navigation électronique. Or, tout appareil électronique peut tomber en panne. Si ça tombait en panne, ou ça tombait dans une rivière pendant la traversée, vous faites quoi? Vous allez pleurer.
Alors, c'est quoi leur GPS au Pygmée Aka?
C'est la tête. C'est la tête. Il faut connaître. Comment ça se passe? Parce qu'il y a. Il y a des symboles, hein, parce que la forêt, c'est des symboles. Par exemple, il y a un langage. Quand vous vous baladez dans la forêt, lorsque vous tracez votre route, vous pouvez couper un arbuste, on appelle ça mopanzé. Vous pouvez faire une marque en se servant de votre pied. Pour retrouver son chemin, on appelle ça Essinga. Vous arrivez là où il y a un croisement, il y a l'autre resté derrière, vous pouvez couper un arbuste pour barrer la route, on appelle ça Djeku, etc. Mais c'est bien de faire ça. Maintenant, le problème, si tu ne veux pas laisser des marques, tu fais comment? Ou déjà même la navigation forestière, c'est une discipline à enseigner même pour les forces armées. Hein, vous savez, des militaires, ceux qui font des exercices sur la survie dans la forêt.
Ils ont intérêt à se former auprès des pygmées Aka.
Voilà, vous devez apprendre la navigation forestière. Maintenant, dans la navigation forestière, supposons si c'est dans le cadre de l'armée, mais si vous faites des marques, vous laissez des traces, l'ennemi va vous repérer. Et ça ne marche pas. Voilà pourquoi il faut connaître les arbres, il faut connaître les essences. Reconnaître que là où je suis passé, il y avait le sapelli. Là où de l'autre côté, il y avait par exemple le bois rouge de Padoue.
Voire même savoir se rendre invisible. Mais alors, ça fait partie des mystères.
Évidemment, il faut connaître les techniques d'invisibilité. Il faut connaître le langage des êtres surnaturels, des esprits qu'on appelle Mokonji au singulier et Mokonji au pluriel. Raison pour laquelle, et ces secrets-là, pour les connaître, il faut passer de l'autre côté. Donc, c'est-à-dire se faire initier. Et là-bas, là-bas, on t'apprend des choses. Pourquoi ? Parce que les esprits dans la forêt, ils communiquent avec, avec les pygmées. Et quand ils communiquent avec eux, c'est à travers des symboles. Voilà, mais si vous ne les maîtrisez pas.
Les esprits de la forêt, les esprits de la forêt, les animaux aussi, tout ce qui compte dans la forêt communique avec les pygmées qui en font aussi de la musique. Vous avez vous-même, Sorel Etat, travaillé avec des musicologues qui étudient les instruments faits à partir de la forêt dans laquelle ils vivent, de cette université de la forêt, comme Suzanne Fournis du CNRS, que vous remerciez d'ailleurs dans votre ouvrage. Elle était venue ici même dans ce studio partager un de ses enregistrements publié chez Okora, Pygméaka, danse de chasse, d'amour et de moquerie, où l'on entend l'instrument gombé, extrait.
C'est une musique tout à fait complexe, polyphonique et d'un point de vue des instruments, utilisant les ressources de la forêt de plusieurs manières. La première des choses que je voudrais bien dire, c'est qu'il s'agit d'un arc en terre, c'est-à-dire dans la caisse de résonance, c'est un trou dans la terre qui est recouvert. Et à l'origine, on utilise soit une très grande feuille de marantacée, ce sont des feuilles qu'on utilise aussi pour les tuiles des maisons ou pour des paquets, pour emballage, ou le trou est couvert par une écorce d'arbre. C'est vraiment la musique des forêts et le corps, l'arc est donc une branche souple et la corde, c'est une tige aérienne d'une vanille qui, elle, est une liane. Et cette tige aérienne de vanille a des qualités acoustiques particulièrement bonnes, de sorte à ce que plusieurs instruments à cordes utilisent cette matière-là comme matière première pour les cordes.
Vous voulez réagir sur l'état ?
Non, mais en fait, ça me rappelle notre enfance. Hein, on avait un instrument, une harpe. En fait, nous, au pays, on ne connaissait pas ça en ces termes. Quoi. Quand on était enfant, 6 ans, 7 ans, on utilisait ça. On appelle ça komanda. Komanda langa, sanga, komanda langa. Voilà, c'est un peu ça. Quoi. Ça me rappelle mon enfance. Voilà.
Et moi, ça me rappelle, c'est le concert que j'ai vu. C'était samedi soir à la Halle Pajol. Vous serez avec le groupe Ndima au 360 Music Factory du côté de Barbès à Paris. Mardi prochain.
Demain à 20h30.
Demain à 20h30, absolument. Et alors moi, j'ai eu la chance de vous voir en concert avec un drôle d'instrument. On va l'écouter. C'est un espèce d'arc. J'aimerais bien que vous nous disiez comment ça marche, ça. On écoute Gabi Mokonga. Sorel Etat, expliquez-nous comment Gabi joue de cet arc.
Bon, l'arc musical, en langue Aka, on appelle ça Mbela. En fait, il confectionne ça à l'aide d'une liane épaisse qu'on appelle Mongenze et d'une liane fine qu'on appelle Dikao. Maintenant, il joue en utilisant une baguette, on appelle toujours Dikao. Et c'est la bouche qui sert de caisse, caisse de résonance. Maintenant, dans la tradition Aka, l'arc a une relation avec la chasse. Pas n'importe quelle chasse, parce qu'il y a plusieurs techniques de chasse. Vous savez, on peut chasser au grand filet, là où bas les animaux vers le filet. On peut chasser au filet bourse, un filet destiné à capturer les terriers, c'est-à-dire les porcs épiques, les rats. On peut chasser à l'arbalète pour des animaux arboricoles. Aujourd'hui, il y a le fusil, mais là, on utilisait ça pour la chasse des pièges à coller. Ouais, quand vous faites des pièges à coller, et au coucher du soleil, vous jouez l'arc et dans l'écho sacré pousse les animaux vers les pièges. Bon, ça c'est autrefois.
L'écho sacré de l'arc pousse les animaux vers les pièges, c'est magnifique.
Ah, oui.
C'est tout un monde en fait. Et c'est vraiment tout un monde que vous avez commencé à découvrir, que vous nous pouvez être passé un peu, mais un peu seulement. Hein. Vous gardez quelques secrets pour vous.
Non, c'est le monde initiatique qui veut qu'on garde les secrets. Parce que les secrets de la forêt... Vous, même tel que je suis en train de parler à RFI, dans mon village, on écoute. Je suis limité. Il y a des choses que je peux dire, il y en a que je ne peux pas dire. Même tel que nous dansons avec eux, il y a des danses qu'on peut venir exhiber ici et d'autres non.
D'autres qui doivent être secrètes.
Rester secret, sinon ça peut leur coûter la vie. C'est ça le principe des sociétés initiatiques. Voilà. On ne dit pas tout. Et il y a même des grandes connaissances de la forêt. Ça, c'est réservé aux initiés. Parce que dans le monde initiatique, Aka, c'est quoi ? on parle un peu de la cosmogonie pygméaka.
Des esprits.
Voilà.
Oui.
Et ils reconnaissent l'existence d'un être suprême qu'on appelle Komba. C'est Dieu, l'équivalent de Dieu, ce que vous appelez Dieu. Ils appellent Komba. Mais la forêt est gouvernée par des êtres surnaturels, des esprits qu'on appelle Mokonji au singulier ou Mikonji au pluriel. Et il y a un Mokonji qui gouverne la forêt, on l'appelle Edzengi. La chanson qu'on a exécutée tout à l'heure, Bambingana Bilo, ça fait partie du répertoire d'Edzengi. Vous voyez, Edzengi, c'est comme leur Dieu. Edzengi, il connaît tout. Hein, il connaît toute la forêt, il connaît les vertus de toutes les essences qui constituent la forêt. Et les femmes s'initient à Jingoku. Vous avez suivi les spectacles. Quand elles jouaient, les femmes dansaient avec les baguettes. Voilà, ça c'est pour rendre hommage à la divinité qui gouverne leur domaine. Et de manière générale, les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur rôle? Ils les protègent, ils rendent propitiatoires leurs activités et puis ils les instruisent. Donc, si vous voulez avoir la connaissance des grands secrets de la forêt, vous êtes obligé de passer par l'initiation.
Obligé de passer par l'initiation, on a bien compris. Il y a des initiations pour les hommes, il y a des initiations pour les femmes. On va voir aussi qu'il y a... Je ne sais pas si c'est une égalité, un partage des tâches, mais en tout cas, on parle de tout. On parle du genre, on parle du sexe et de la sexualité sans problème. Et puis les femmes, les chanteuses comme vous, Angélique Manongo, elles sont plus qu'impressionnantes pour dénoncer des pratiques qui les font plus que les déranger, des pratiques terribles. Je vous propose d'écouter tout de suite un chant féminin polyphonique. Angélique vous expliquera après, puisqu'elle le chante elle-même, et là, c'est un extrait du disque, qui dénonce... une pratique terrible, celle du viol. On l'écoute. Alors là, c'est Akaya, donc on s'est trompé dans l'album, donc j'aimerais bien qu'on passe donc cette chanson terrible, composée par et interprétée par Angélique, qui est avec nous, mais aussi avec Émilie Coulet et Nadège Montambon. Et ça s'appelle Cossé. Et ça, c'est une dénonciation sur le viol. On écoute Cossé ? Pour dénoncer une forme de viol interprétée par Angélique Manongo, qui est avec nous en direct, Émilie Coulet et Nadège Montambon. Est-elle serait l'État? J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment, et peut-être demander à Angélique des précisions sur ce chant qui dénonce une pratique courante, le viol.
Là, elle parle d'une pratique que j'ai développée dans le livre qu'on appelle Makumu. Il dit les hommes Aka, quand ils voient par exemple une femme pygmée s'empiffrer d'alcool, parce que nous sommes dans une société où ils sont vraiment très alcooliques. Et
les pygmées Aka boivent
beaucoup. Ouais, mm-hmm. Ouais. Donc quand ils voient une femme comme ça, ils profitent d'abuser d'elle. C'est-à-dire quand elle part dans sa case pour aller dormir, ils savent qu'elle est
quand
déjà...
Quand elle est saoule.
Ouais, saoule. Allez, elles vont profiter pour faire des rapports sexuels avec cette dernière. Ça, c'est la première étape. Un peu pas maintenant, Yakadi.
Namaleku, Yakadi maintenant. alali se buna batu banda kubakima tu buna mulala asa se buna bakima tu okatanda koti nde biye bete
ça c'est on peut profiter de l'état du reste des femmes, mais aussi une autre méthode que les hommes font recours pour aller se livrer un coït avec avec des femmes, c'est-à-dire ils font recours à une amulette. Vous pouvez être là dans votre maison, ils rentrent, quand ils rentrent avec leur amulette, quand ils portent ça, ils serrent ça au niveau de leur de leur bras et ils plongent tout le monde dans un profond sommeil, et à partir de là maintenant ils peuvent faire les rapports sexuels, avoir les rapports sexuels avec une ou deux personnes filles à leur portée. Voilà.
Donc ça c'est un viol qui se pratique de manière courante, mais que ces femmes, ces chanteuses pygmées Aka, dénoncent et peuvent dénoncer et veulent dénoncer ouvertement.
Et évidemment, et à travers la chanson, ils sont en train de dénoncer. Nyamotebo, ndenge ba topai ba doka makumu nesika biato, hein. Bon,
Bunedita la ko bo, Bunedita la bo, yadi bobe, yadi nyongo, yadi.
Il dit à plusieurs reprises, et il y a même les enfants, c'est-à-dire leurs cousins, les enfants de leurs oncles qui se permettent d'aller, d'aller les violer. Voilà.
Et du coup, de chanter cette chanson, de la porter, est-ce que du coup ça peut faire changer les choses? Ça fait quoi? Ça fait qu'on en parle? Ça montre aussi que c'est quand même une société où on peut lancer des alertes et des alarmes?
Yebo, ndenge bune lemba kaboka kose, hein? Est-ce que batamakumu, ba kokubo digi makumu? Parce que ben ba moka kande ba lemba ka ben ne boka, ba kokubo digi makumu.
Ba woko ba kokubo digi te, ba woko ba digi ba dika.
Ka ne boka kan ndenge bune lemba kaboka ba woko kokubo digi,
hein? Ba woko ba kokubo digi ba ba woka soni bo, ah, ndenge ba tonga buse buso ma ba to boya ka ba buse soni. Ba woko ba dika me, ba woko ba didi kete, ba woko ba continue kaka.
Il dit certains peuvent arrêter de pratiquer le makumu parce que ils se disent, ah, on commence à nous dénoncer à travers les chants, il faut qu'on arrête. Mais d'autres par contre, ils pas y continuer.
Oui, ça c'est très très compliqué, on s'en doute, mais vous me disiez aussi, c'est vrai l'état, que vous étiez surpris de la manière dont finalement les pygmées Aka, ces sociétés-là, parlent quand même ouvertement de sexualité, de rapport homme-femme. Il y a moins de tabous que dans les sociétés bantoues, à Brazzaville notamment, et en République du Congo.
Ah, mais ça c'est clair. Déjà, vous voyez Angélique, pour dire qu'elle a été victime de viol, elle n'a pas eu honte. Certaines personnes auraient honte de dire, parce qu'elle est internationalement connue. Voilà, dire à la radio comme ça que moi aussi j'ai été victime, il faut avoir ce courage-là. Et moi, par exemple, j'ai constaté que quand je compare la société bantoue et la société pygmée, Aka, en tout cas en matière de sexualité, je trouve que les pygmées sont plus en avance par rapport à nous. Parce que chez eux, il n'y a pas de tabou. Il y a ce que nous appelons en français l'éducation sexuelle. Mm-hmm. C'est-à-dire, papa enseigne, donne des enseignements à son enfant, à son garçon, le grand frère à son petit frère. Maman fait la même chose à sa fille, la grande sœur fait, idem à sa petite sœur. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Moi, bantou, mon papa, il est décédé jusqu'à sa mort. Voilà, on n'a jamais parlé sexualité comme ça. Mmh. Moi, j'ai un garçon, que ce soit mon garçon, ma fille, je n'ai jamais parlé de sexualité. Vous voyez? Et ça, ça arrive à beaucoup de bantous dans notre société. Et moi, dans mes recherches, vous savez, il y a beaucoup de branches. Hein. Il y a des moments, par exemple, quand je fais l'ethnographie, hein, on sait que l'ethnographie, c'est le travail de collecte d'informations, etc. Il y a des moments, j'ai dit, par exemple, je fais l'ethnographie des pratiques musicales. Je collecte des informations concernant la musique. L'ethnographie des pratiques, c'est-à-dire de l'habitat, l'ethnographie des pratiques alimentaires et culinaires. Et il y a eu un moment où je me suis dit, j'ai fait l'ethnographie des pratiques chamaniques, c'est-à-dire étudier le rapport entre le chaman et la personne qui va contacter le chaman. C'est quand j'ai commencé à faire ça que je me suis rendu compte du mal, de la souffrance de mes semblables bantous. Parce qu'il y a des filles, vous savez, par exemple dans leur société, quand un homme sort avec toi, vous avez des rapports sexuels. Il découvre que ton organe, ton anatomie génitale n'est pas ça, mal entretenu, etc. Ça ne s'arrête pas là. On va dénoncer ça à travers une chanson. On dit que non, regardez, mademoiselle X, son corps là-bas, il ne sait pas entretenir, etc. Idem pour l'homme. Parce que vous savez, en matière de sexualité, nous les hommes, il y en a qui ont un joli corps, il y en a qui ont des
qui petits bangalas, des petits zizi,
il y en a qui souffrent des éjaculations précoces et autres. Ils ne disent pas ça devant les gens. Mais chez les Aka, si une femme, par exemple telle qu'Angélique, elle découvre ce côté, cette faiblesse, Et ça ne va pas s'arrêter là.
Et ça va se chanter.
Ça va se chanter. Et quel est ce papa qui va accepter qu'on dénonce son enfant dans une à travers une chanson? Quelle est cette maman qui va accepter qu'on dénonce sa fille à travers une chanson? Parce que les chansons voyagent. Quand quelqu'un de notre village vient dans votre campement, il écoute la chanson, il l'amène chez lui et ainsi de suite. Donc c'est ça qui les pousse à regarder ça de près. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Les Bantous sont en train de souffrir. Moi, j'ai été invité une fois à la télévision nationale, télévision de chez nous. Et il y a une émission qu'on appelle Studio 210. Ça passe le matin. J'étais parti avec des chamans sur le plateau. Et quand le journaliste a posé au chaman qu'est-ce qu'il pouvait guérir comme maladie, etc., l'idée est venue au chaman de parler du sexe. Il dit les hommes qui ont des problèmes de sexe, etc., on peut les soigner. Mais Caroline, de 10h45, l'heure à laquelle on a fini l'émission, à 21h, mon
téléphone... Ça n'a pas arrêté de sonner.
Mais ça n'a pas arrêté de sonner. Les gens sont en train de souffrir. Il y a d'autres personnes, quand tu les vois en couple, échec de mariage, il faut se demander c'est quoi. Ce n'est pas toujours le comportement. Ça peut être le dessus de la culotte et autres. Mais comme on n'en parle pas, les gens souffrent. Mais eux, ils en parlent. Ils ne souffrent pas.
Et ils en parlent. Et ils en parlent en musique. Et ils en parlent en chanson. Alors, on aurait pu écouter une chanson, parce qu'il y en a plusieurs dans cet album là-dessus. Mais justement, à propos des paroles de ces chansons, ce sont des rythmes traditionnels, ce sont des polyphonies qui s'apprennent, mais les paroles, elles s'adaptent. Et on peut en inventer tous les jours d'autres, enfin des nouvelles.
C'est des musiques improvisées. Il y a pas de texte comme on peut dire bon, il y a l'hymne de la France, le texte on sait que le premier vers c'est ça, le dernier c'est ça. Non, il y a pas de texte. C'est des thèmes. Par exemple, quand ils ont chanté Kossé à quoi Makoumou, hein, ils dénoncent le Makoumou. On sait que le thème c'est la dénonciation du Makoumou. Maintenant, chaque chanteur essaie de trouver des mots qui vont aller de pair avec la dénonciation du Makoumou. C'est comme ça. Donc la même chanson n'est jamais reprise le lendemain ou
c'est
etc.
De l'impro, c'est de l'improvisation.
C'est de l'improvisation, mais on reste dans le thème. Et la mélodie aussi, on reste dans celle-ci.
C'est de l'improvisation, parfois même avec humour. Et pour lutter contre les préjugés et le mépris, on en a parlé, dont sont victimes les pygmées Aka, on les appelle les puants, parfois. Oui. Alors, les pygmées Aka ont composé une chanson sur la mauvaise odeur des Aka. Je propose de l'écouter. La mauvaise odeur d'un Aka, c'est la plage 14 de votre disque. On l'écoute tout de suite. Polyphonie humoristique, j'ai envie de dire, interprétée par des pygmées Aka, Sorel Etta, sur la mauvaise odeur des pygmées Aka, pour se moquer de ceux qui se moquent d'eux.
Je préfère qu'Angélique réponde à cette question.
Angélique,
quoi, Nongo? Non, tu n'as mon bengabouné, il n'y a pas sur la mon benganaïe.
Mon bengabouné, il n'y a pas sur la mon benganaïe. Tu n'as pas sur la mon benganaïe. Tu n'as pas sur la mon benganaïe. Tu n'as pas sur la mon benganaïe.
Mais Yakadi,
Sorel,
vous nous traduisez ce que vient de dire
Angélique. Oui, sur la Mumbenga, l'odeur nauséabonde du pygmée. En fait, dans notre société, il y a des moments où un Aka peut passer. Et le bantou, il bouche les narines pour dire que le pygmée dégage une mauvaise odeur. Il y en a qui peuvent cracher. Et dans les rapports pygmée-bantou, souvent, c'est ça qui est très, très difficile, quoi. Voilà, le bantou, il n'accepte pas facilement les pygmées. Et ça va jusque même dans les relations. Parce que quand on voit les rapports pygmée-bantou, il y a des rapports de troc, il y a des rapports de maître-esclave pour être un peu plus direct. Et puis, il y a des rapports sentimentaux. Sur le plan sentimental, vous voyez l'injustice. Un homme bantou peut épouser une femme pygmée. Mais le contraire, c'est-à-dire qu'un homme pygmée épouse une femme bantou, ça ne passe pas chez nous. Vous voyez? Tout ça pourquoi? Parce qu'on a tellement de
préjugés. Les préjugés, voilà. et que les pygmées peuvent même, enfin les pygmées AK, peuvent même mettre en chanson. J'aimerais bien qu'on s'arrête autour de la question pourquoi se former à l'Université de la Forêt avec les pygmées AK? Reprendre, votre titre, l'Université de la Forêt, Sorel État, c'est un titre militant parce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec le gouvernement de votre pays qui finalement encourage la scolarisation de tous les enfants.
Je ne suis pas d'accord.
Et pour vous... on voit bien ce qui s'est passé dans d'autres, par rapport à d'autres peuples autochtones dans le monde. C'est comme ça qu'ils perdent toute leur tradition, tout leur savoir, leur école de la forêt, justement.
Récemment, on a vu, le pape, il est parti au Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Demander pardon. C'est à cause de toute cette histoire-là. Il est parti demander pardon de l'autre côté. Et chez nous, on continue à scolariser les enfants autochtones en masse. Toujours les catholiques, là, c'est toujours eux. Et avec la bénédiction du gouvernement, avec la bénédiction du système des Nations Unies, des différentes organisations internationales
qui sont au pays. Oui, on sait qu'il faut scolariser les enfants, mais vous dites, attention, ils sont en train de tout perdre, là.
Oui, parce que moi, dans ma position d'ethnologue, d'abord, le travail que j'ai fait, on nous compte des bouts des doigts. Je ne sais pas s'il y a deux ou trois qui font le même travail que moi.
Je ne crois
hier,
pas.
Hier, moi, je ne savais pas que la forêt était une école. Moi, j'ai dit tantôt que moi, j'ai refusé de continuer à l'université conventionnelle. Je n'ai jamais été à l'université. J'avais refusé, mais quand j'avais commencé à pénétrer la forêt, c'est là où je m'étais rendu compte que c'est une école. Maintenant, la différence, par exemple, entre l'école de la forêt, que j'ai définie par une pédagogie mise en place par les peuples premiers pour transmettre des connaissances et savoir-faire à leur descendance, elle est différente de l'école conventionnelle. Là-bas, il y a l'écriture et la lecture, mais au niveau de l'école de la forêt, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de lecture. C'est juste l'écoute, l'observation et l'imitation.
C'est les trois principes, écoute, observation, imitation.
Et imitation. Maintenant, les enseignements, ça reste les mêmes. Si du côté, par exemple, de l'école occidentale ou l'école moderne, on apprend la chimie, la littérature, je ne sais pas quoi, bien d'autres disciplines, mais à l'école de la forêt, la connaissance des essences, des arbres, c'est ce que nous appelons en français la botanique. Du monde animal, c'est ça qu'on appelle la zoologie. Du comportement des animaux dans leur milieu naturel, c'est ça qu'on appelle l'éthologie. La musique, on apprend. Leur musique, on peut enseigner ça, c'est dans un conservatoire. En passant, hier, j'ai eu une masterclass avec des musiciens professionnels au centre culturel irlandais. Vous voyez, des professionnels, ils viennent apprendre leur musique. Et imaginez que nous puissions créer un conservatoire de musique un jour dans notre pays, conservatoire de musique polyphonique pygmée. Je vous assure que les gens quitteront aussi l'Europe pour aller apprendre chez nous.
Moi, j'attends ça, je veux ça à Brazzaville, un conservatoire de musique.
Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est parce que nous, dans notre société, au Congo, nous, on n'étudie pas la musique comme chez vous, on n'étudie pas la théorie musicale. Les gens qui étudient la musique, on les compte. Vous savez, la plupart des musiciens chez nous, ils sortent des églises, ils sont formés dans les églises, lesquels connaissent un peu la musique, qui étudient la musique. Peut-être chez les Kimbanguistes, on apprend un peu chez les salutistes. Mais les prostétons, ils sont nuls. Moi, je me rappelle quand j'étais choriste à l'époque, on nous enseignait la théorie musicale, mais les choristes ne voulaient pas. Les catholiques, ils n'apprennent pas. Donc, les gens sont incapables de comprendre ça. Ils ont un trésor sous leurs pieds et ils sont incapables d'identifier que ce que font les pygmées musicalement est un trésor.
Donc, pour vous, il y a du boulot pour mettre en avant ce trésor musical, botanique, éthologique de la forêt des pygmées. Je vous propose de conclure parce que ce serait sans fin. Je vous propose de conclure en laissant la parole et la voix à Angélique. Angélique Manongo, c'est à vous pour conclure.
Bosse boka kaya basije.
Merci. Angélique Manongo, merci Sorel État. Je rappelle donc votre ouvrage Sorel État, l'Université de la Forêt avec les pygmées AK, paru au PUF. À suivre donc demain soir au 360 à Paris, un concert du groupe Ndima, qui a aussi un album, Les Voix de la Forêt, Makingo Mbandima. Et puis peut-être une tournée internationale à suivre, Sorel État, vous connaissant, pour partager ce trésor des pygmées. Merci à vous. Vous avez 10 secondes.
En fait, on va continuer. On va aller animer des masterclass dans les universités, donc à Tours et à Vienne. Et puis, il y aura des conférences sur le livre. Vous voyez, ici, on s'intéresse à ce que on se désintéresse au pays.
Ah, d'accord. Donc, il faut qu'au pays aussi, on s'intéresse au pygmée Aka. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été en direct avec nous. Merci à Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses. À demain, chers amis auditeurs et auditrices à l'esprit libre et ouvert. Les infos dans quelques instants.